D'accord. Voilà, donc Luc, l'évangile selon Luc, chapitre 14, on va lire à partir du verset 12 jusqu'à 24. 12, ça nous permet de voir un peu l'arrière-plan. Jésus dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Mais Jésus lui répondit, Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ. Et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, Va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun des hommes, de ces hommes qui avaient été invités, ne goûtera de mon repas. Et ainsi la parole de Dieu. Alors ici, on veut regarder au fait que Dieu veut que sa maison soit remplie, afin que, il donne des ordres à ses serviteurs, afin que ma maison soit remplie. Alors, notre passage se situe, si on lisait depuis le début, un peu avant, on s'aperçoit que tout le contexte, c'est Jésus qui passe du temps avec les pharisiens. Ou plutôt, les pharisiens passaient beaucoup de temps avec lui. Et des fois, on se demande pourquoi. Et quand il y a une situation comme ça, on sait qu'il va y avoir des confrontations. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que les pharisiens, c'était à l'époque l'image ou l'essence même de la religion. Alors que Jésus, lui, c'est le cœur de la grâce, pour ça qu'il est ici. Et les deux ne peuvent pas se mélanger, ne peuvent pas se côtoyer, on ne peut pas composer les deux ensemble. Ce n'est pas possible. On l'a déjà dit souvent, mais ce sont deux principes, la religion et la grâce, deux principes qui sont en totale opposition et surtout en exclusion. Si on a un, on ne peut pas avoir l'autre. Paul le dit clairement dans la lettre aux Romains. Si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres. Et si c'est par les œuvres, ça ne peut pas être par la grâce. La grâce est détruite par les œuvres. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par religion? C'est un peu de la révision pour nous. Mais c'est toujours important de revenir à ces choses-là. On va voir pourquoi. La religion, c'est toute perspective, toute logique qui cherche, même inconsciemment, même sans vraiment le vouloir, à fabriquer son salut. C'est quelque chose qui cherche à atteindre Dieu par quoi que ce soit qui vienne de moi. C'est soit des œuvres, soit ma grande valeur, soit le fait que je suis quelqu'un de spécial, et ainsi de suite. Et donc, on peut dire, en fait, que chacun d'entre nous, par nature, chaque être humain est religieux. Religieux. Dès le plus jeune âge, on s'aperçoit que, enfin, on voit on pense que on est quelqu'un de bien, quelqu'un de spécial. C'est intéressant quand on arrive avec les petits-enfants, on est moins impliqué qu'avec les enfants. Et tout de suite, on voit que le petit garçon, la petite fille, c'est surtout le petit garçon qui le montre, parce que c'est sa nature, n'est-ce pas? Alors, il est quand même quelqu'un de spécial. Il faut qu'on lui donne des égards. Donc voilà, tout de suite, on voit que dès la naissance, l'être humain est un être religieux. Et c'est-à-dire que Dieu peut nous témoigner de la faveur qu'il peut avoir, peut-être plus prédisposé, être plus prédisposé envers nous en quelque chose qui est en nous ou qui vient de nous. Et donc, on est tous religieux par nature. Donc, en fait, voilà la religion, ce qu'on appelle la religion. Ce n'est pas simplement le fait d'aller dans un bâtiment où on offre un culte le dimanche. Ce n'est pas simplement ça. Non, c'est chercher à atteindre Dieu par ses efforts ou par sa propre valeur. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la grâce? Puisqu'on a parlé des deux principes qui s'opposent et qui s'excluent mutuellement. En fait, la grâce, c'est un principe qui concerne l'homme, mais qui ne prend rien en compte de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a un bénéficiaire, oui, c'est l'homme, d'une certaine manière, en ce qui nous concerne, mais ça n'utilise rien de ce qui est dans l'homme. Et c'est là, vraiment, le cœur de la grâce. C'est un don gratuit. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est donné, mais qui n'est pas mérité. Il y a des fois, on peut penser à faire un cadeau à quelqu'un parce qu'ils nous ont invités à manger ou parce qu'ils nous ont fait un travail. Alors, on parle de cadeau, mais en fait, ce n'est pas un cadeau. C'est un salaire. Mais là, c'est la grâce, c'est le don. C'est donner et c'est donner sans tenir compte de la valeur de la personne, ni même quelques mérites. La personne n'a rien fait pour recevoir la grâce. Alors, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se rappelle, qu'on se remémore, qu'on se redise sans cesse, parce que sans cesse, on a tendance à œuvrer dans le principe de la religion, dans le principe des œuvres. Et bien entendu, la Bible parle, présente le salut, c'est-à-dire l'acceptation devant Dieu par grâce et le règlement de la question du péché, la Bible présente tout ça comme de la pure grâce. Dieu a donné, Dieu n'avait pas besoin de donner. Absolument pas. Il l'a fait par grâce. Et là encore, il faut qu'on revienne sans cesse à cela parce que sans arrêt, on a cette tendance à penser que d'une manière ou d'une autre, c'est normal que Dieu veuille sauver. Ça n'est pas normal. Ça serait normal, si on peut dire, parlant de Dieu sans vouloir le manipuler, ça serait normal que Dieu punisse à l'enfer. Ça, c'est normal. Mais non, le fait que Dieu fasse grâce, ça n'est pas normal. C'est quelque chose qui doit sans cesse nous émerveiller, sans cesse nous surprendre. Et en fait, c'est pour cela que la grâce et la religion, les œuvres et la foi s'excluent mutuellement, comme le dit Paul aux Romains, n'est-ce pas? C'est aussi pour cela que tout homme doit devenir nouveau pour passer de la religion qui s'attache tellement à lui qu'il possède depuis la naissance, à la grâce qu'il n'a pas de par lui-même, mais qui vient de Dieu. Il faut qu'il soit transformé complètement. Et c'est pour ça que la Bible utilise des expressions qui montrent un changement total. Être né de nouveau, une nouvelle création, et encore quantité d'autres expressions. On ne peut pas jongler avec les deux à la fois. Et c'est le malheur de beaucoup d'hommes, et peut-être notre malheur, c'est essayer de garder les deux Et les pharisiens étaient très bons à essayer de faire cela. Ils n'y arrivaient pas, bien sûr, mais ils faisaient tous leurs efforts pour ça. Et ils creusaient les Écritures, ils sondaient les Écritures, dit Jésus. Et il ne dit pas, en fait, vous ne le faites pas. Ils le faisaient. Et on a l'image du juif qui est penché sur son parchemin jusqu'à ce qu'il soit fatigué, les yeux qui ne peuvent plus voir. Pourquoi? Parce qu'il pense trouver la vie dans ces Écritures. Mais en fait, il refuse le don de la grâce. Il refuse la grâce, pourquoi? Parce qu'il est attaché à ses œuvres. Il cherche à jongler, il cherche à garder, à chevaucher les deux montures. Malheureusement, elles vont dans des directions totalement différentes. C'est impossible. Et là, les pharisiens, les juifs, se pressent autour de Jésus et d'une certaine manière, ils cherchent, au début tout au moins, à le faire entrer dans leur système. On se rappelle de Nicodème qui vient. Pourquoi? Parce que Jésus a une puissance, il a vu ça à cause des miracles qu'il fait. Il a une puissance que eux n'ont pas. Mais eux, par contre, ils ont le schéma politique pour faire sortir les Romains de Palestine. Et donc, les deux ensemble, on pourrait composer, ce qui est tout à fait impossible. Et si on lit le passage qui précède notre texte, on s'aperçoit que Jésus n'est pas vraiment le meilleur des diplomates de ce côté-là. Et sans cesse, il reprend les gens, et notamment ici. Il est invité à manger chez quelqu'un, il est l'invité d'honneur, et le voilà qui commence à parler, à critiquer son hôte. Ça ne se fait pas. Et on peut juste imaginer le genre d'atmosphère qu'il y avait dans la salle, comme on dirait chez nous, à couper au couteau. Et là, on est là, les gens, le nez dans leur assiette, je ne sais pas s'ils ont une assiette ou quoi, enfin, vous voyez un peu, essayer de penser, bon, est-ce que ça va durer longtemps? Pourquoi est-ce que je suis venu? Qu'est-ce que je fais dans cette galère? Et des choses comme ça. Et comme il y a toujours dans des situations comme ça, voilà un monsieur qui prend la parole et se lance en train de... Il s'exclame, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, voilà, invite ceux qui ne te reprend, comment, qui ne te rendront pas l'appareil. Hein? Alors là, il n'est pas en train de dire qu'il faut pas qu'il invite ses parents. Non, ce qu'il montre, en fait, il faut qu'il agisse comme Dieu. Et en fait, il veut montrer plutôt que de la morale, la manière dont il faut inviter les gens, il veut montrer à ses hôtes, il veut montrer aux gens autour de lui comment est-ce que Dieu œuvre dans le salut. Il ne donne pas le salut à ceux qui peuvent lui rendre quelque chose. Il donne le salut à ceux qui ont besoin du salut. Et il a parlé de cela te sera rendu à la résurrection des justes. Et voilà ce monsieur-là qui est un peu le pompier de service par rapport à à la situation explosive. Alors il part de ça, oui, à la résurrection des justes, il va y avoir le banquet des noces de l'agneau. Alors heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est une vérité qui est indéniable et merveilleuse. Celui qui sera autour de la table, qui sera à la table du banquet des noces de l'agneau, c'est quelqu'un qui sera heureux, qui sera béni, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose de vrai. Mais le problème, c'est que dans la bouche de cet homme, cette belle vérité était devenue un genre de bondieuserie plate, quelque chose qui n'avait aucun sens, qui était vide de toute force. Alors voilà, quelqu'un qui utilise un bâton de dynamite pour, je ne sais pas, peut-être caler la porte ou quelque chose comme ça. Et il l'utilise complètement à tort et à travers. Alors, on ne va pas jeter la pierre à cet homme parce que très souvent, on est à sa place, n'est-ce pas? Vous avez été à sa place, moi aussi. Et combien il nous arrive de dire des choses belles sans force, sans force. Quel est le problème de cet homme-là et des pharisiens, bien sûr, autour de lui. Mais quel est le problème de cet homme? C'est tout simplement qu'il se considère, lui, et son parti, bien sûr, comme un ayant droit du royaume de Dieu. C'est quelqu'un qui pense, oui, voilà, il y a la table qui est en train d'être préparée dans le royaume de Dieu, dans ce banquet des noces de l'agneau, et mon carton est déjà là avec mon nom. C'est ça son problème. Et c'est le problème de la religion. On pense qu'on mérite, on pense que la chose est un droit que nous avons, alors que cela s'obtient par grâce, cela est donné par grâce. Alors, combien cet homme est nous, on peut dire, combien il est familier, n'est-ce pas? Et Jésus lui répond par cette parabole du grand festin et des invités indignes. Alors, on parle des invités indignes. Est-ce que c'est même, dans certaines des versions, là, il y a le sous-titre, les invités indignes. Mais il faut bien souligner une chose, c'est qu'aucun de ces invités ne se considérait comme étant indigne. Mais il l'était, n'est-ce pas? Donc, Jésus lui répond, et j'aimerais regarder ça un peu plus en détail, mais on court un danger quand on fait cela. Et quel est ce danger? C'est précisément le danger de cet homme. En effet, on peut bien voir que les pharisiens avaient besoin que Jésus les reprenne, les réprimande là-dessus, les enseigne. Ce qui est très intéressant, peut-être petite parenthèse, c'est que chaque fois que Jésus reprend des hommes tels que les pharisiens ou même ses disciples parfois, tout ça, il le fait toujours de telle manière à ce que si son esprit œuvre en eux, ils se repentiront, ils viendront à lui. Ça n'est jamais quelque chose qui est une censure totale. Il n'est pas venu pour perdre, il est venu pour sauver. C'est quelque chose qui est remarquable et ça vaut le coup de lire les évangiles en recherchant cela. Et donc, notre danger, c'est de voir que les pharisiens ont besoin de cette réprimande et en agissant ainsi, en ayant cette pensée, on s'exclut de ceux qui sont dans le besoin, comme si nous-mêmes, on avait un titre pour être invités au banquet des noces de l'agneau. Or, nous aussi, nous ne sommes pas dans cette logique de la religion, mais il nous faut absolument bénéficier de la grâce. Et c'est pour ça qu'on veut regarder le cœur de Dieu dans le salut. C'est cela. Alors, il y a une chose intéressante à regarder. Au verset 16, nous lisons « Jésus lui répondit ». Jésus parle à cet homme en particulier. Et il lui lance un appel à voir la grâce du salut. C'est là qu'on voit que non seulement Dieu a un cœur qui veut sauver, mais celui qu'il a envoyé, il parle des fois même assez brusquement aux hommes, mais c'est de manière à ouvrir leurs yeux, si l'Esprit œuvre selon le dessein de Dieu. Quand on vient à l'écoute de ce que Dieu a à dire, veillons à nous dire qu'il me parle, et à moi, à chacun en particulier. Ça n'est pas une parole qui est pour les gens qui sont pris dans la religion. Ce n'est pas une parole qui est prise pour ceux qui se pensent ci et ça. Non. Jésus lui répondit. Et je dois sans cesse me ramener au fait que quand la parole de Dieu parle, quand je lis la parole de Dieu, Dieu me parle. Dieu me parle. Alors, en premier lieu, nous allons regarder l'appel de l'Évangile. L'appel de l'Évangile. Nous lisons ici au sujet d'un homme. C'est un homme qui est aisé, riche, très riche même, et il donne un grand repas et il invite beaucoup de gens, il est dit. Ne pensons pas que le salut, c'est pour le petit nombre, le peu qui est choisi, le petit reste. Ce n'est pas simplement ça. Non, il invite beaucoup de gens. Et les gens, en principe, ils donnent un genre de grand repas quand ils ont quelque chose d'important à célébrer. Il y a quelque temps, là, on nous a demandé dans la famille de mettre une date à part. Pourquoi? Parce que quelqu'un arrive à une certaine, un certain âge qui est comment, une dizaine révolue ou une nouvelle dizaine qui s'ouvre, alors on nous a dit, mais gardez ce jour ou ces 2 jours de côté parce que nous allons faire la fête. Voilà. On a quelque chose d'important à célébrer. Ou alors, on a ce genre de grande occasion quand on veut honorer quelqu'un. Et plus on invite de gens, plus est exalté l'honneur de qu'on attribue à celui qui est à l'honneur, comme on dit. Et on donne un grand repas, et plus il y a de gens, plus la personne est honorée. Et très souvent, l'Écriture parle de Dieu le Père qui donne un grand repas. Et ce repas, c'est l'image de la consommation, de l'apogée du salut, c'est-à-dire l'appel de l'Évangile qui mène à cette grande consommation, cette grande fin qui est ce banquet des noces de l'agneau. Par exemple, si on regarde au chapitre 22 de Matthieu, on lit que le Père a donné un repas pour son Fils. Et dans le livre de l'Apocalypse, qui termine cette révélation divine, en apothéose, on voit que c'est le banquet des noces de l'agneau. De l'agneau. Et Dieu le Père, comme on l'a souvent dit, tout ce qu'il fait vise l'honneur de son Fils. Et depuis toute éternité, il lui a donné, dans son grand amour, il lui a donné une épouse. Et tout le déroulement de l'histoire, ce qui se passe, jusqu'au plus petit détail, n'est qu'une marche de préparation, un genre de procession nuptiale pour faire éclater finalement la gloire de l'agneau devant tout l'univers. C'est simplement ça. Et aujourd'hui, on a le cœur qui est peut-être des fois un peu liquéfié, qui bat la chamade par rapport à tout ce qui se passe. Où est-ce que vraiment nous allons, nous pouvons. En tant que croyants, nous pouvons avoir cette confiance que tout ce qui se passe sert de procession nuptiale, si on peut dire, aux noces de l'agneau. Et c'est dans son œuvre de salut que Christ, le Fils bien-aimé de Dieu, paraît le plus glorieux. En fait, si on peut dire, le Fils a une gloire qu'il n'a pas en dehors de son œuvre de rédemption. Il est plus glorieux, si on pourrait parler, dans la rédemption. Déjà, on voit que Jésus ne parle pas d'un salut religieux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il parle d'un grand repas, il parle d'un banquet, il parle d'un festin, d'une occasion de joie, en fait. Et c'est pour ça qu'on voit que le maître de la maison, il est irrité quand les autres refusent. Pourquoi? Parce qu'il veut se réjouir, lui aussi. On pense aussi au fils prodigue, ou plutôt au père prodigue. Il dit, on veut se réjouir. Et si vous êtes sauvés, est-ce que vous vous réjouissez de ce salut? Parce que le salut, c'est une occasion d'une grande joie. Et il est dit que, en fait, il y a une grande joie dans le ciel, devant les anges, pour un seul pécheur qui se repent. Dieu se réjouit du salut de son peuple. Est-ce qu'on pense comme cela? Il nous faut revenir à cela. Donc, ça n'est pas un salut religieux, parce que le salut religieux, c'est quelque chose de triste. C'est une tyrannie. Mais non, ici, c'est quelque chose d'une grande joie. Alors, est-ce que je me réjouis de mon salut, ou est-ce que je vois le salut comme une cause de grande réjouissance, ou plutôt comme une cause de crainte? Est-ce que j'ai fait suffisamment? Est-ce que j'ai encore quelque chose que je peux faire? Non. Regardons le salut comme une grâce. C'est une joie. Le Seigneur donne le salut. Le Seigneur donne la vie. Le sujet d'une grande joie. La paix est faite entre Dieu et l'homme. Et depuis le moment où on est, ou depuis le moment où on devient conscient, on cherche à faire la paix avec Dieu, d'une manière ou d'une autre, même des fois en s'enfermant dans l'incrédulité, on cherche à se protéger de cette conscience qui nous montre qu'il n'y a pas de paix. Eh bien, on n'y arrive pas. C'est en vain. On le fait depuis le début. Et Voilà que maintenant, on voit que la paix est faite entre Dieu et l'homme, et elle est faite par Dieu. Et c'est aussi une invitation. Cet homme invite beaucoup de gens. L'invitation, c'est un sujet de grande joie. Dieu convie les hommes à venir au banquet de son salut. Est-ce que nous sommes venus? Allez, il est clair qu'on ne peut pas obtenir le salut par ses propres efforts. Pourquoi pas? Eh bien, parce que le salut que Dieu prend en compte est déjà accompli. Il est déjà accompli. Et ça, c'est un aspect qui est fondamental. Regardez ce que l'hôte dit, verset 17. Voilà l'hôte, il envoie son serviteur juste avant le temps du repas et dit, mais venez, car tout est prêt. Tout est déjà prêt. Est-ce que c'est le salut dont on se targue? Est-ce que c'est le salut que je déclare avoir? Est-ce que c'est le salut que je cherche? Quelque chose qu'il faut que je fabrique ou quelque chose qui est déjà prêt? Est-ce que c'est le salut que je possède? Ces questions ne sont pas des questions vaines, parce que beaucoup possèdent ou viennent à un salut où tout n'est pas prêt encore. Tout n'est pas déjà prêt. Il faut amener quelque chose, il faut encore une décision, il faut des millions d'heures, il faut une amélioration et tout. Et c'est un peu comme vous invitez quelqu'un à un repas et puis la personne vous téléphone et puis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Ah non, mais il n'y a rien à faire. Voilà, tout est en contrôle, tout va être prêt. Mais voilà que le moment arrive où les gens viennent. Et ils ont quelque chose dans les mains, comme si ils s'attendaient à ce que ce qui était prêt n'était pas tout à fait prêt. Et c'est une insulte pour la maîtresse de maison, souvent. Alors, si on demande à la personne d'amener quelque chose, oui, ça c'est bon. Mais vous voyez un peu, on vient au salut, mais tout n'est pas déjà prêt. Or, le salut de Dieu, il dit, venez, car tout est déjà prêt. Dans le passé, on avait cette expression qui semblait tellement intelligente, mais en fait qui était complètement idiote, que Dieu a fait le chèque et maintenant c'est à nous d'écrire le nom. Vous avez peut-être entendu ça, hein? Non? Ah, c'était assez commun dans le passé. Non, ça, ce n'est pas le salut de la Bible. Non. Le nom des élus sont gravés sur le cœur du Sauveur depuis l'éternité. Quand le souverain sacrificateur allait derrière le voile, il avait ce pectoral et il y avait des noms qui étaient gravés. Ces noms n'étaient pas aggravés, ils étaient déjà gravés. Les noms du peuple d'Israël. Non. En lui, dit Paul, en Éphésiens, nous avons la rédemption par son sang. C'est quelque chose qui est fait. Dieu a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Comment? En attendant que les gens se décident pour lui, non, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est fait. C'est fait. Venez, car tout est déjà prêt. L'appel de l'Évangile retentit. Et qu'est-ce que mon cœur répond? Et donc, en deuxième lieu, on veut regarder les réponses à l'Évangile que nous voyons dans notre texte. L'hôte a lancé l'invitation. Les serviteurs vont dans chacune des maisons, elles disent, venez, venez, car tout est déjà prêt. Et les prédicateurs et les croyants vont à droite, à gauche, et encore, on en parlait dimanche dernier, autour de la table, voilà, on essayait de parler, de montrer que l'invitation est là, tout est déjà prêt. Comment les invités répondent-ils? Et la parole de Dieu est claire. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Et des fois, on va parler aux gens qu'on rencontre, qu'on connaît, qu'on aime, des fois, et on est surpris parce qu'ils se rebellent, ils refusent l'Évangile, ils se ferment à l'Évangile, ils disent, bon, ils nous montrent clairement que ouais, ça c'est un paquet de bêtises et laissez-moi avec ça et tout ça. On est surpris. Or, la parole de Dieu nous prévient là-dessus. Tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Alors aujourd'hui, on cherche à être différent. Si vous voulez être différent, il ne faut pas refuser l'invitation de l'Évangile, parce que tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Et cela nous fait penser, bien entendu, à ces passages de l'Écriture où nous lisons, il n'y a point de juste, pas même un seul, pas même un seul. Tous, unanimement, s'excusent. Tous, unanimement, rejettent l'invitation de Dieu. C'est là qu'on voit la rébellion du péché. Quelquefois, on fait l'erreur de penser qu'il existe des gens qui sont prédisposés à accepter le salut. Je me rappelle, plusieurs fois, ça m'est arrivé, on prêche comme ça et vous avez quelqu'un qui vous regarde et vous a l'impression que c'est en train d'entrer comme dans du beurre, comme on dit. Mais la personne est en train de penser à toutes sortes de choses qui n'ont absolument aucun rapport avec ce que vous êtes en train de dire, alors que peut-être à côté, quelqu'un cherche à donner l'impression qu'il n'entend même rien du tout, et c'est là que Dieu fait son œuvre. Non, faisons attention à garder la perspective biblique. Face à l'Évangile, face à l'offre du salut, face à l'offre de la grâce, tous les hommes, unanimement, s'excusent, refusent. Non. Quelquefois, on fait l'erreur de penser que, bon, finalement, soit moi, soit les autres, telle personne ou moi-même, moi, je ne suis pas aussi mauvais que cela. Quand même, l'Évangile, ouais, je vois bien, mais si on met les exigences de l'Évangile face à un homme, là, on va voir quel genre de bonté on trouve dans ce cœur. Et regardons les excuses. Parlons d'excuses bidons. Nous avons des excuses qui ne tiennent même pas debout. Et l'excuse de l'homme face à l'invitation de l'Évangile, mes excuses face à l'invitation de Dieu sont des excuses vraiment ridicules, qui ne tiennent pas debout. Plutôt que de m'excuser, mes excuses, en fait, me condamnent beaucoup plus. Regardez l'autre là, il a acheté un champ sans le voir. Alors, ça c'est même quelqu'un qui est complètement idiot. Et voilà l'autre, il a acheté 5 paires de bœufs, ça c'était énormément d'argent, un investissement énorme. Et il n'était même pas sûr que ça marchait. C'est quand même quelle histoire. Non, mais il est facile de voir la bêtise des excuses que ces gens-là donnent. Mais il est un peu plus difficile de voir mes excuses, n'est-ce pas? Quelles sont les excuses que je donne face à l'Évangile? Ça, c'est la question qui se pose. Alors, quelqu'un va dire, par exemple, j'ai peur de ne pas être élu. Dieu lance une invitation et tout ce qu'il demande, si je ne peux pas le faire, comment est-ce que vraiment je vais. Est-ce que Dieu peut vraiment me demander de faire quelque chose que je ne peux pas faire? Mais mes amis, Dieu demande simplement de répondre à son invitation en venant. Il ne demande pas à ce qu'on vérifie si on est élu. L'élection n'a jamais empêché quiconque d'entrer dans le royaume des cieux. Certains ont peur de cette vérité, merveilleuse vérité biblique. Et les gens vont nous dire, mais quand même, cette élection ou cette prédestination, ça c'est quelque chose de dur. Hein? Et ça rend le fait que Dieu n'est pas juste. On a encore eu l'objection qui nous a été lancée encore récemment. Mais c'est faux, c'est faux. L'invitation de Dieu, elle invite simplement les gens à entrer dans le royaume de Dieu. Ça ne garde pas les gens à sortir. Tout le monde est exclu par nature. Et s'il n'y avait pas une élection selon la grâce, personne ne serait jamais sauvé. Donc, cette invitation vient dans le cadre de l'élection de Dieu. Dieu a aimé un peuple, mais elle ne ferme jamais, jamais la porte du ciel. Quelqu'un dit, je n'arrive pas à croire. La Bible dit, ne dit-elle pas que personne ne vient à Christ à moins que le Père ne l'attire? Comment est-ce qu'on me demande de faire ce que je ne peux pas faire? Mais en fait, celui qui dit cela, il ne regarde pas à Christ, il regarde à sa foi. Et effectivement, par nature, personne n'a de foi. deux fois salut. Si on dit je veux croire, alors on ne croira jamais. On ne croira jamais. L'invitation n'est pas de croire, mais de venir. De venir. Et en fait, il n'y a pas de choix. Il faut venir, sinon il n'y a pas de salut. Alors, une autre objection qu'on entend quelquefois. J'ai vu trop d'hypocrites dans les églises. Ah, et ça mord, n'est-ce pas? Parce qu'on se connaît trop. Eh bien, ça, c'est pas du tout une objection. Parce que venez faire partie du groupe. Nous sommes tous, par nature, habités par de l'hypocrisie. Ah, quelqu'un dit, mais je crains de ne pas tenir le coup, de ne pas tenir la distance, et je vais abandonner parce que je n'ai pas la force. Mais quelle va être la différence? Ne pas venir ou repartir, ça revient plus ou moins au même. Donc pourquoi ne pas prendre Dieu au mot et le mettre au test? Et les excuses se multiplient. Vous en avez, j'en ai. Et elles sont toutes, quand on les analyse, aussi creuses les unes que les autres. Non, personne ne vient jamais au salut. Personne ne se saisit de l'invitation de l'Évangile par ses propres moyens. Comme la parole le dit clairement, tous s'excusent unanimement. Tous unanimement se mirent à s'excuser. Est-ce donc à dire que l'appel de l'Évangile est lancé en vain? Non, pas du tout. Et c'est pour ça que maintenant, nous voulons voir la réponse de l'Évangile. Et là, on entre dans la merveille. On entre dans la merveille de Dieu. Parce que la réponse de l'Évangile, c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle du salut. Le maître de la maison est irrité de la réponse de ses hommes. Est-ce qu'il va annuler son grand repas? Tout est déjà prêt. Mais c'est impossible. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il n'est jamais défait. Il ne connaît pas la défaite à cause de la puissance de l'incrédulité des hommes. Quelquefois, on parle à nos amis ou à nos connaissances et on est en butte à une incrédulité. Des fois, il y a les ténèbres, et des fois, c'est vraiment une incrédulité militante. Et tout d'un coup, on est complètement désarçonné, désarmé. On dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais Dieu n'est jamais comme ça. Dieu ne peut pas être mis en déroute par l'incrédulité de l'homme, quelle que soit la virulence de cette incrédulité. Aucun des invités indignes ne goûtera du repas. Ça, c'est vrai. Mais Christ doit être honoré. Le Fils doit être honoré. Le banquet des noces de l'agneau doit avoir lieu. Oh, en voyant le rejet de Christ tout autour, peut-être même des fois en nous-mêmes, on a tendance à désespérer. Et l'exhortation de ce passage, c'est ne désespérez pas, ne désespérez pas. Écoutons plutôt ce que le maître de la maison dit à son serviteur. Il prend le serviteur et irrité comme il est, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme l'irritation en une annonce de l'Évangile. Va promptement! Ne perds pas de temps! L'Évangile, c'est Dieu qui va chercher. Bien sûr, il utilise des moyens, des instruments, mais c'est lui qui va chercher. Il envoie ses serviteurs dans tous les lieux. Et pensons un peu, dans notre expérience personnelle, mais aussi les gens qu'on a rencontrés, qu'on a vus, comment le Seigneur va les toucher. Des manières, des fois, qui sont complètement détournées. On a du mal même à saisir toutes les complexités de ce que Dieu a utilisé afin d'aller toucher ce cœur. Mais il envoie ses serviteurs dans tous les lieux, mais maintenant il n'invite plus. Va promptement, dit-il, et amène ici. Il faut que ces gens viennent. Le Père attire avec sa puissance maintenant. Sans appel, son appel s'accompagne de la puissance de vie. Il donne la volonté à ceux qui l'entendent. Et c'est à travers cet appel que vient la vie. Qui sont ces gens qu'il appelle maintenant? Ce sont les pauvres, ils n'ont rien à produire, peuvent rien donner. Les estropiés, ils n'ont aucun moyen de venir, il faut les amener. C'est pour ça qu'il dit à son serviteur, amène-les, les aveugles, comment est-ce qu'ils vont trouver la porte étroite? Les boiteux, comment est-ce qu'ils pourraient mériter une telle invitation? Absolument pas. Va, dit le maître de la maison, amène-les. Pourquoi? Parce que sinon ils ne peuvent pas, eux. C'est non pas qu'ils ne veulent pas, on n'est plus dans ce registre maintenant, c'est qu'ils ne peuvent pas. Et est-ce que ça n'est pas une description, les amis, de vous et de moi? Alors, je l'espère, parce que la description de ces gens, c'est exactement la description de ceux qui furent amenés dans la salle du banquet. Et si je suis de leur nombre, estropié, aveugle, pauvre, boiteux, alors j'ai de l'espoir, n'est-ce pas? Je peux me réjouir. Et le serviteur s'approche du maître. Ce que tu as ordonné a été fait. On a l'évangile là encore, n'est-ce pas? Le salut n'est pas laissé à l'humeur des hommes, à la merci des événements. Ce n'est pas ce pauvre Jésus qui frappe à la porte de ton cœur et qui attend. Non, ce que Dieu a décidé, ne le fera-t-il pas? Mais bien sûr que si. Ce que tu as ordonné a été fait. Mes amis, chaque jour qui passe, ce que Dieu a ordonné depuis toute éternité se produit. Et je ne suis pas en train de parler de ce qui se décide dans les couloirs du pouvoir. Je suis en train de parler de cette diffusion de l'Évangile partout. Des choses incroyables. Des gens qui sont touchés, on pourrait dire presque sans instrument humain. C'est simplement parce qu'on ne le voit pas. Mais ce que tu as ordonné a été fait. Chaque jour qui passe, on peut le finir en disant « Seigneur, merci parce que ce que tu as ordonné a été fait. Il n'y a rien qui manque. » Vous finissez la journée, je finis la journée, et on avait prévu de faire des tas de choses. Et même quand on avait l'énergie au début de la journée, à la fin, on est obligé de dire « Bon, ça, je ferai demain. » Dieu n'est jamais dans ce registre. Jamais. Dieu, merci, il est souverain absolu. Christ a accompli une œuvre achevée. Il est maintenant assis. Et tous les fruits sont engrangés chaque jour. Chaque jour. Mais le serviteur ne s'arrête pas là. Et il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Et ça, c'est là. À mesure qu'on avance dans l'Évangile, on a la merveille de l'Évangile. Toujours plus, n'est-ce pas? Il y a encore de la place. Est-ce que vous ne ressentez pas ici l'abondance, l'extravagance du salut de Dieu? C'est pour ça qu'on parle de la parabole du Père prodigue. Il va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Non, l'élection de Dieu ne ferme pas la porte. C'est l'incrédulité de l'homme qui ferme la porte. Il y a encore de la place. Y aura-t-il des gens qui devraient être au ciel et dont la place sera finalement vide? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que le maître, maintenant, il donne mission à ses serviteurs. Va, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Contrains-les d'entrer. Et Paul disait, mais l'amour de Christ nous presse. Si bien que il était presque au point de secouer comme un cocotier les gens en face de lui. L'Évangile ne s'arrête pas avec les marginaux des villes, avec les boiteux, les pauvres. Tout ça. Le voilà maintenant qui va dans les chemins, le long des haies. L'Évangile n'était pas simplement réservé pour les Juifs. Mais quand les Juifs ont tourné le dos, l'Évangile s'est ouvert à toutes les nations. Et voilà l'Éthiopien eunuque, l'eunuque éthiopien qui arrive à Jérusalem, l'endroit où Dieu avait mis son nom. Mais il arrive trop tard. Et il repart, tout déçu, dans l'ignorance encore. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que Dieu a décidé. Et il n'est pas possible que cet homme rentre en Éthiopie ou au Soudan. Il n'est pas possible qu'il rentre tel qu'il est parti. Non, la grandeur de l'Évangile, contraint-les. Tous ceux qui sont éloignés sont là. Ceux qui gisent dans la honte, il faut qu'ils viennent. Sûrement, ils ne vont pas vouloir. Alors, contrains-les. Et quelquefois, vous avez cette parole qui vient et vous parlez à quelqu'un et vous avez l'impression, tout d'un coup, il y a une puissance qui se met en jeu. et ce qui touche le cœur, qui touche le cœur. Et voilà que dans notre expérience, on peut retourner le jour où le Seigneur nous a fait grâce, il nous a fait grâce. Il dit, mais tout d'un coup, il y avait la puissance là. Quelque chose qui est indescriptible, inimaginable. Mais ce frère qui est, c'était un Gallois, alors il aimait beaucoup le rugby et il était vraiment très simple dans ses expressions. Alors il avait commencé à aller à l'église parce que sa femme a été convertie, alors il veut un peu savoir ce qu'on fait avec elle et tout ça. Et il est venu pendant quelque temps et puis il disait après, il expliquait comme quoi, il dit c'était comme regarder un match de rugby à la télé, mais il n'y avait pas le son, alors il ne comprenait rien. Et puis tout d'un coup, quelqu'un a mis le son. Et là, il comprenait, c'est ça. Contrains-les. Oh, combien on se laisse influencer par cette caricature d'un Dieu qui emmène des gens au ciel par force, alors qu'ils font tous leurs efforts pour lui échapper. Et donc, on a tendance à dire, il faut qu'on présente l'Évangile d'une manière acceptable. Oh, non, 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 faisons attention. Dieu contraint. Contraint. Ah, il ne le fait pas d'une manière caricaturale comme ces gens nous le disent. Non, pas du tout ça. Non, il tisse plutôt, nous dit la parole, des liens d'amour, des liens d'humanité. Il donne la vie qui vient. La vie qui répond à son invitation. Oh Seigneur, contrains-les, contrains-moi à venir. Prends ma vie pour toi. Ça, c'est le cri du croyant, le cri de celui en qui Dieu œuvre. Bien entendu, la force n'est pas en nous. C'est Dieu qui donne. Elle ne vient pas de nous, mais Dieu donne, nous dit le psaume. Il donne l'ardeur quand il rassemble son armée. C'est-à-dire qu'il rend son peuple désireux quand il exerce son pouvoir. Et pourquoi tout cela? Pourquoi tous ces efforts démesurés? Quelle est la raison de tout cela? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de déployer toute cette activité? Oui, car le maître de la maison dit, c'est afin que ma maison soit remplie. Quelle merveilleuse perspective! Christ doit recevoir l'honneur. On n'est pas là à chercher à remplir des salles, à bâtir un empire. Non, c'est que Christ doit recevoir l'honneur. Lui, il est allé fouler la presse. Seule la presse de la colère de Dieu. Il a été rejeté, méprisé, séparé du Père, mais il faut que sa maison soit remplie. Et la merveille de l'Évangile de la grâce, la merveille de la Bible, c'est que la maison de Dieu sera remplie. C'est la merveilleuse victoire de la grâce divine, afin que Christ soit en tout le premier. En tout le premier. Mais revenons à notre homme religieux, ce monsieur qui a parlé au milieu de cette atmosphère qui était vraiment dure. Et il est un peu comme nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais les places dans la salle du banquet ne sont pas attribuées selon les mérites. Ça n'est pas attribué selon ce que l'homme pense. Aucun de ceux qui avaient été invités n'est là autour de la table. Non. Pourtant, tous ces gens-là, tous les pharisiens, ils pensaient en avoir le droit. De droit, ils étaient déjà là. C'est pour ça qu'ils ne cherchaient pas le salut. La porte serait encore ouverte après qu'il soit parti examiner son champ. Il va revenir et il viendra au banquet après, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'il pensait. Ou alors, une fois qu'il a essayé ses bœufs, il peut revenir et la porte est toujours ouverte. Ou alors, quand il a joui de sa jeune épouse, eh bien, maintenant, c'est le temps de penser au banquet du maître de la maison. Et combien de fois on entend cela? Oui, je veux bien entendre l'évangile, mais laissez-moi vivre ma vie. Je suis encore trop jeune pour regarder ces choses-là. Pas du tout, pas du tout, car la porte fut fermée. La porte fut fermée. Et ces gens-là, mes amis, qui pensaient avoir leur carton sur la table, leur place réservée, ils restent dehors. Ils doivent rester dehors. Et c'est là qu'il y a des pleurs et des grincements de dents. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui est là à travailler dur dans une entreprise et il pense mériter que vraiment il va y avoir de la promotion qui se prépare et c'est à moi. Et voilà qu'en fait, quelqu'un d'autre passe devant et on peut imaginer les grincements de dents. Mais ça, c'est une petite image, c'est rien à côté des grincements de dents qu'il y a en enfer. Oh, pourquoi est-ce que je recherche le salut? Est-ce que c'est afin de sauver ma peau, d'apaiser ma conscience, ou est-ce que c'est parce que, invité par l'Évangile, la puissance de Dieu m'attire et me contraint? Alors, entrez car tout est déjà prêt et il y a de la place. Et ceux d'entre nous qui sont entrés par la grâce de Dieu, est-ce qu'on ne voit pas ces choses ainsi? C'est un vrai banquet. La table est remplie et il y a de la place. On n'est pas à l'étroit. Ce n'est pas comme celui qui espère arriver au ciel avant qu'on ferme la porte, de se glisser in extremis. Non, 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 non. Pourquoi est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce que quelque chose en moi a finalement eu raison de l'intérêt de Dieu? Que finalement il a vu que j'existais? A-t-il vu la grande valeur qui est en moi, qui est tellement évidente à mes yeux depuis si longtemps? Ou bien est-ce que le serviteur, l'esprit, a dû venir me chercher et peut-être m'amener sur le dos des prières du peuple de Dieu, ou bien me contraindre en abattant toutes mes objections? Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Est-ce que je suis sauvé parce que j'étais perdu, parce que j'étais pauvre, estropié, aveugle, boiteux, incapable de venir? Oh, dépouillons-nous continuellement des haillons de notre propre justice. Et revêtons la joie de la robe des noces, cette robe qui est la robe de la justice parfaite de Christ, qui a été tissée par le sang de la croix. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Heureux effectivement, infiniment béni celui qui bénéficie de la grâce pure de Dieu, la grâce sans autre, la grâce qui est en Christ pour des pécheurs misérables. Que le Seigneur nous fasse la grâce de nous réjouir d'un tel salut, de le connaître, de le posséder et de l'annoncer pour la gloire de son Fils. Amen.